Nous lisons dans Matthieu 16, à partir du verset 21. Matthieu 16, à partir du verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme ? Nous allons parler du poids de nos actes et aujourd'hui nous allons toucher le côté négatif, le poids de nos actes. Nos actes peuvent avoir un très grand poids, même si en apparence ils peuvent paraître simples ou légers. Et là, je crois que tout lecteur arrivé à cet endroit s'étonne de voir Jésus répondre si brutalement à Pierre. Dire « Arrière de moi, Satan !» On voit que par la suite, Jésus remet l'autorité à Pierre de diriger son troupeau plus tard. Donc Jésus, ce n'est pas qu'il détestait Pierre, au contraire, puisque par la suite, il lui donne des grandes responsabilités. Mais Jésus a dit clairement « Arrière de moi, Satan !» Aujourd'hui, nous allons échanger, parler du fait que il faut faire attention de ne pas nous laisser utiliser par le diable. L'idée, c'est quoi ? C'est que nous négligeons souvent le poids de certains de nos actes parce que nous croyons que leurs conséquences se limitent à nous tout seuls, ou parfois, c'est juste parce que notre orgueil nous pousse à les commettre sans parfois un besoin réel ou bien une tentation réelle par rapport à l'acte que tu commets. Il n'y a pas vraiment la grande tentation, mais tu commets l'acte parce qu'il y a ta chair qui n'est pas encore brisée, qui te pousse à commettre l'acte parce qu'il y a l'orgueil de la vie, l'orgueil du moi, et tu fais la chose, mais les conséquences sont graves, les conséquences sont importantes. Et Pierre, quand il a dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », pour Pierre, mais c'est une bonne chose qu'il disait là, parce que son maître dit qu'il va mourir, il va être persécuté, et Pierre ne veut pas cela. Où est le mal de manifester un sentiment de compassion, un sentiment de pitié? Où est le mal de souhaiter que son ami ne souffre pas? En apparence, il n'y a aucun mal. Mais Jésus dit « Arrière de moi, Satan ». Donc il y a un vrai mal qui était là, mais Pierre n'a pas pesé ça. Pourquoi Pierre n'a pas pesé ça? Parce que Pierre s'est limité sur le côté charnel. C'est son ami, c'est son maître. Qui va aimer que son maître ou son ami souffre? Personne. Mais Pierre a négligé le fait que c'était aussi le Seigneur. C'était le Seigneur. Donc, entre Pierre et le Seigneur, qui devait diriger l'autre? C'était le Seigneur. Il a négligé le fait qu'il avait en face de lui son Seigneur. Quand son Seigneur, ton Seigneur dit quelque chose, ce n'est pas toi qui vas contredire ou vouloir que les choses se passent autrement. C'était son Seigneur. Pierre a négligé ça. C'est pourquoi il n'a pas su gérer le poids de cette phrase-là. Il a dit une phrase rapidement comme ça parce que ça lui faisait mal que Jésus souffre. Ce que nous tous nous trouverons normal. Mais sauf que là, Jésus était en train de prophétiser, de dire clairement qu'il doit souffrir. C'est la volonté de Dieu. Alors, Pierre n'a pas réalisé qu'il contredisait la volonté de Dieu. J'ai pris cet exemple pour nous montrer comment des actes très petits, à nos yeux, je dirais comme on a l'habitude de parler de portes ouvertes, parfois des petites portes ouvertes peuvent avoir des conséquences graves. Pierre ne comprenait pas que si Jésus ne souffrait pas, s'il ne mourait pas, nous tous, bien-aimés, nous sommes perdus. Nous serions perdus. Lui, il veut juste garder son ami sans souffrance, garder son ami vivant. Mais si son ami, son maître, restait vivant, restait sans souffrance, nous, toute l'humanité, nous étions perdus. C'est pourquoi Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées des hommes. » Voyez encore un détail dans cette phrase-là de Jésus. Quand il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan », il n'a pas dit forcément que c'est Satan qui a parlé. Il a dit « parce que tes pensées sont des pensées des hommes ». Donc, les pensées des hommes, en réalité, peuvent être les pensées de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit, d'un côté, il dit « arrière de moi, Satan », mais de l'autre côté, il dit « mais c'est des pensées, c'est des réflexions d'hommes ». Nous voyons là qu'une réflexion d'homme, en réalité, peut être une pensée de Satan pour nuire gravement. Parce que si Jésus a rétorqué aussi durement, parce qu'il a senti cela comme une vraie attaque, un vrai combat contre l'œuvre de Dieu, il dit « arrière de moi, Satan ». C'est ça la réalité, parfois, de nos actes. Nos actes peuvent avoir des conséquences graves, mais ils peuvent être très petits. Il y a beaucoup, par exemple, de femmes, de pasteurs ou de responsables qui, pour un petit souci, peuvent créer une dispute alors que le mari va prêcher ou va faire un travail de prière très important. Mais pour un petit problème, il crée dispute et peut-être 500, 200, 300 personnes vont manquer la parole de Dieu ou bien vont subir quelque chose qui n'est pas de Dieu parce que la personne qui devait prêcher, la personne qui devait servir Dieu a essuyé peut-être une dispute parce que il n'a pas regardé le maquillage de sa femme. Bien-aimé, c'est des petits actes comme ça que nous trouvons simple, que la personne trouve simple, mais la personne ne mesure pas l'étendue de la responsabilité de son acte. C'est une réalité, bien-aimée. Là, je ne veux pas parler que des actes de péché. Parfois, il y a des actes qui ne sont même pas des péchés. Quand Pierre a parlé, il n'a pas commis de péché. Il a dit, mais Seigneur, il a exprimé son désir. Mais son désir était contre la volonté de Dieu. Et son désir était un acte dangereux contre l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que, bien-aimés, de jour en jour, des chrétiens, alors parfois on ne sait pas si c'est des chrétiens, mais admettons que ce soit des chrétiens, il y a des chrétiens qui se laissent égarer, qui se laissent utiliser par le diable à cause de leur chair qui n'est pas brisée, de leur caractère qui n'est pas purifié. Ce n'est même pas, vous savez, il y a des péchés qui sont dus au fait que la personne s'est sentie vraiment faible devant une tentation et est tombée. Mais il y a des péchés où la personne ne s'est pas sentie forcément faible. C'est son caractère qui n'est pas purifié, qui lui autorise à faire ce qu'il veut. Et c'est son caractère qui n'est pas purifié, qui l'empêche de saisir le poids de ses actes. C'est ça l'idée d'aujourd'hui. L'idée, bien-aimé, ce n'est pas de minimiser certains péchés par rapport à d'autres. Tous les péchés sont une offense devant Dieu. Mais cependant, il y a des péchés qui semblent petits, qui qui sont issus de petites portes ouvertes, mais qui peuvent avoir des graves conséquences directes sur la terre. Donc le côté, bien-aimé, il faut se rappeler que le côté péché par rapport au ciel, par rapport au jugement dernier, Jésus-Christ l'a réglé à la croix. Hein, y a un verset célèbre, on en a parlé à Bernay le dimanche passé. David, dans un des psaumes, il dit « Dieu ne m'a pas traité selon mon péché ». Pourquoi Dieu ne l'a pas traité selon son péché ? Parce que Jésus-Christ allait régler la question de péché à la croix. Il allait mourir dans le psaume 103, justement. Il allait mourir pour cela. Donc, en ce qui concerne le ciel, Christ a réglé la question du péché pour nous tous. Lorsqu'on pêche, on demande pardon. On est purifié. Donc, la question du ciel est réglée. Aujourd'hui, c'est la question du poids de ton acte sur terre. Quelles conséquences ça entraîne sur toi et sur les autres? Ça peut avoir des conséquences très graves. Mais l'acte paraît petit. Nous lisons dans Josué 7. Nous sommes dans une configuration où les enfants d'Israël viennent de gagner une guerre et Dieu leur dit, en gagnant la guerre, avant la guerre même, il leur a dit, quand vous allez gagner, n'utilisez pas, ne prenez pas les choses de ces gens-là. Il faut tout brûler, tout détruire. Maintenant, eux, ils ont gagné la guerre. Et on appelait ça autrefois dévoué par interdit. Quand Dieu dit que tu ne touches pas quelque chose, on dit que la chose a été dévouée par interdit. Donc, il ne faut pas toucher l'interdit. Verset 1er. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit. Donc, on avait dit qu'il fallait tout détruire, il ne fallait pas utiliser. Lui, il a pris une part du butin. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Contre qui ? Contre tous les Israélites, alors que c'est Achan qui a pris la part du butin. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, une autre guerre, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez, espionnez le pays. Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, que tout le peuple ne monte pas, que 2 000 ou 3 000 hommes montent et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent et ils s'enfuirent devant les gens de Haï. Les gens de Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie, à moi, Seigneur, que vais-je dire ?» Maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, nous encercleront et retrancheront notre nom du pays. Alors que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Qu'est-ce donc ? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Voilà ce qui s'est passé. Israël venait de vaincre lors d'une grande guerre. Il a vaincu Jéricho. Maintenant, face à un petit pays, à une petite ville, Haï, Israël perd la bataille. Josué ne comprend pas. Mais comment ce Dieu-là peut agir ainsi? Il nous fait triompher d'une grande nation pour nous faire battre face à une petite nation. Comment est-ce possible? Il se déchire les vêtements ainsi que les anciens. Et Dieu dit à Josué, mais c'est parce qu'il y a l'interdit. L'interdit, c'était quoi? C'est Akan qui avait volé la part du butin de la victoire précédente, alors que Dieu avait dit qu'il fallait tout détruire. Mais bien-aimés, mettez-vous à la place d'Akan. Il s'est dit, mais attends, moi je ne vois pas pourquoi on va détruire des beaux tissus comme ça. Moi je ne vois pas pourquoi on va détruire l'or quand même, ça peut servir même à Dieu. Je pense que vous vous souvenez de Saül. On lui a dit de tuer tous les animaux, tout le bétail. Mais lui s'est dit, mais attends, des belles vaches comme ça, des belles brebis, des béliers solides comme ça, je vais les tuer inutilement. Donc voilà l'homme, il se dit, mais ça sert à quoi? Moi, je vais les garder pour donner une offrande à l'Éternel. Et Akan devait se dire, bon, je ne crois pas que ça, c'est très sérieux vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il a réfléchi, souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre, ce sont des pensées d'homme. L'homme, il se dit, mais non, je ne crois pas que Dieu va vouloir qu'on détruise tout ça. Bon, c'est vrai que c'est le prophète qui a parlé, mais je doute, mes bien-aimés. Pour battre Jéricho, qui avait parlé? Le serviteur de Dieu. Parce que comment ils ont battu Jéricho? Rien qu'en sonnant de la trompette. Vous gagnez une guerre rien qu'en sonnant de la trompette. Donc vous comprenez que qui a gagné là? Qui s'est battu à votre place? C'est Dieu. Mais qui a parlé pour que vous fassiez cette procédure? C'est le serviteur de Dieu. Maintenant, le même serviteur a dit que quand vous allez gagner, il ne faut pas prendre ce que le butin et mettre... Et utiliser ça. Comment tu peux accepter, bon tiens, on a gagné la guerre selon la parole de l'homme de Dieu. Maintenant, quand il ne faut pas prendre le butin, tu réfléchis, tu dis, mais non. Et c'est ce que nous trouvons dans beaucoup d'églises. Beaucoup de gens disent, mais oui, mais bon, si j'ai été transformé, si j'ai été touché, c'est à cause des prédications. Mais maintenant, quand les prédications vont toucher un jour quelque chose auquel il tient beaucoup, ces prédications-là deviennent exagérées. Et ce serait encore bien de comparer avec la Bible. Mais ils vont prendre la parole prêchée et ils vont comparer ça avec leur raisonnement. Ils ne comparent pas avec les versets bibliques. Parce qu'il faut comparer avec les versets bibliques. D'ailleurs, c'est ce qui nous est recommandé dans Actes 17. Mais beaucoup ne comparent pas avec les versets bibliques. Ils comparent finalement avec leur raisonnement. Or, au début, ils disaient que je suis touché par telle personne. Je suis touché par ce que Dieu a sorti de sa bouche. Mais oui, mais maintenant, quand il faut tout appliquer, on relativise, non pas parce qu'il y a des versets qui veulent qu'on prenne les choses autrement, mais tout simplement parce que notre raisonnement refuse. Et bien aimé, c'est des actes graves de conséquences. Je crois que Akan se dit, mais oh, quand même, de toute façon, on ne me verra pas. Mais Dieu lui a vu. Voilà un petit acte comme ça. C'est un petit acte. Pourquoi? Parce qu'il a pris quelques biens. Mais ça a entraîné la mort de combien de personnes? 36, bien-aimés. À quand ils volent, 36 personnes meurent. C'est grave. C'est grave. Donc attention, bien-aimés, à ne pas nous laisser utiliser par le diable. Il s'est laissé utiliser par le diable. Et c'est son peuple qui en a pâti. Une personne qui vole et tout le peuple souffre. Mais selon lui, ça devait être un petit acte. C'est pourquoi, bien-aimés, je nous interpelle. Revoyons notre façon de marcher avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 9, dans Luc 5, dans Marc 2, il faut le vin nouveau dans des outres neuves. La parole de Dieu que Jésus amène, si tu analyses ça avec le raisonnement ou bien avec la logique ancienne, ça ne peut pas coller. Il faut vraiment se laisser transformer, qu'on devienne des outres neuves. Des gens dont l'intelligence, comme c'est écrit dans Romains 12, est renouvelée. Il faut que notre intelligence soit renouvelée, que nous puissions peser le poids des actes
de nos actes, le poids réel de nos actes. Il y a des gens bien-aimés qui sont capables d'engager leur famille juste par jalousie. Il voit l'autre avec quelque chose et il engage sa famille dans une voie pour apporter la même chose, pour avoir la même chose, soit une maison, soit des vêtements, soit une voiture. Et toute la famille va pâtir comme ça du caprice d'un seul homme, comme on vient de voir. Mais c'est petit. On se dit c'est petit, mais c'est grave, les conséquences. Il y a des gens juste pour jouer à un jeu, mais ils sacrifient toute la famille. Jouer à la loterie, ils sacrifient toute la famille. Des petits actes peuvent engendrer des graves conséquences. On l'a dit, bien-aimé, je le répète pour éviter toute confusion, tout péché est grave aux yeux de Dieu. Mais en ce qui nous concerne individuellement, le Seigneur a souffert à cause de nos péchés. Il a été sacrifié afin que nous soyons pardonnés. Ce qui fait que nous finirons par être pardonnés si nous demandons pardon. Cependant, nous serons plutôt pardonnés si nous demandons pardon. Cependant, nos actes peuvent avoir des conséquences très, très lourdes. Donc nous devons analyser les conséquences de nos actes. Parfois, on n'est même pas tenté, mais c'est parce qu'on n'est pas renouvelé dans notre intelligence qu'on considère que quelque chose qui est une erreur n'est pas une erreur grande. C'est une petite erreur, mais c'est un caprice en réalité. Parfois, c'est juste des caprices. Ce n'est même pas qu'il y a une grosse tentation, mais c'est juste un caprice qui nous fait comporter d'une manière qui en arrive à détruire beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, juste parce qu'ils estiment qu'ils sont âgés, ils ne veulent pas écouter les jeunes. Même si le jeune est appelé par Dieu, même si le jeune a fait ses preuves qu'il était de Dieu, que Dieu l'a oint pour toi, pour t'aider toi, mais à un certain moment, le réflexe de l'âge revient et la personne refuse d'écouter ce que Dieu dit à travers le jeune. Mais c'est petit, c'est juste une petite fierté, dirait-on. Mais ça peut avoir des conséquences graves, parce qu'une telle personne va être bloquée dans sa vie, et il va bloquer ses enfants, et il va bloquer sa famille. Juste parce qu'il a voulu faire valoir le côté âge. C'est juste pour ça, juste à cause de cela. Fierté, petite fierté, et beaucoup de gens sont détruits. Et là, petit vol et 36 personnes meurent. Toute une nation perd courage parce que leur cœur était parti, quoi. Donc ils n'avaient plus de force. Toute une nation perd la force parce qu'une personne a volé quelques biens, quoi. Quelques biens. Ce n'est même pas 10 personnes, une seule personne. Mais je pense que s'il savait, connaissait le poids de son acte, il ne le ferait pas comme ça. Mais vous me direz, mais pourquoi Dieu ne nous montre pas clairement le poids de nos actes pour éviter qu'on fasse de grosses bêtises? Non, Dieu nous demande d'obéir. Il veut qu'on soit nouveau, qu'on change. Donc il y a des commandements simples qu'il nous a donnés. Offrez vos corps en sacrifice vivant, c'est agréable. Il nous a donné le commandement simple. Il a dit, celui qui vient à moi doit renoncer à lui-même. Donc nous avons lu ça. Il l'a déjà dit. Maintenant, ceux qui appliquent ça, ils saisissent le poids de leurs actes parce qu'ils sont renouvelés, parce qu'ils ont compris qu'ils doivent renoncer à eux-mêmes. Mais ceux qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes ne saisissent pas. Là, il n'y a pas La transparence, donc la lumière, quand elle vient, elle rencontre un prisme coloré et la lumière sort en couleur et ils ne peuvent pas saisir Dieu clairement. C'est pourquoi ils font de graves erreurs. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est de renoncer à nous-mêmes, de laisser Dieu purifier notre caractère, de mourir à nous-mêmes afin que nous ne fassions pas des actes qui vont être destructeurs à grande échelle, mais qui ont une petite origine en apparence. C'est ce qui s'est passé dans la parole de Dieu, c'est ce qui continuera encore à se passer. Vous savez, David, juste le fait de s'être reposé chez lui, au lieu d'aller en guerre, parce que tout le monde a son onction. David, c'était un guerrier. Maintenant, il y a la guerre. Comme il était en même temps roi, il a préféré utiliser le côté roi et rester chez lui. Alors que, ayant l'onction de guerre, il devait aller en guerre. Même juste en donnant des instructions, mais être sur le champ de bataille. Il a dit, moi, je suis roi, bon, il y a le général qui est là, Joab est là et les autres sont là. Moi, je me repose. Vous voyez, un petit acte négatif, mais qui peut dire que c'est un péché? Qui peut le dire? Personne ne peut dire que c'était un péché. Parce que, voilà, il avait une armée. Mais c'était un manquement par rapport à l'onction qu'on lui a donnée, lui. Puisque, bien aimé, Dieu nous oint. Il y a beaucoup de fois, les gens m'ont dit, mais pasteur, tu devrais te reposer. Il y a des gens qui ont pitié de moi, pasteur, tu devrais te reposer. Moi, je leur dis toujours, bien aimé, on ne m'a pas oint pour me reposer. Le jour où Dieu voudra que je me repose, il me reposera. Il est capable de me reposer. Ce n'est pas moi de prendre la décision de me reposer. Parce que j'ai reçu quelque chose qui doit fonctionner. Jusqu'à ce que celui qui a donné dise, tu te reposes. Et comme il est bon, il le fera. Beaucoup de pasteurs, ils éteignent, ils débranchent leur téléphone à 22h. Sous prétexte qu'ils doivent se retrouver seul à seul avec Dieu. C'est faux, bien-aimés. Vous allez voir que quand Dieu ne veut pas qu'on t'appelle, même si ton téléphone est allumé, personne ne va t'appeler. Et tu vas te reposer. Tu n'as pas besoin de débrancher le téléphone. Dieu est capable de couper la ligne, de faire oublier ton numéro aux gens. Tu as une onction. Tu as une puissance, bon, tu décides de ne pas l'utiliser. Selon un raisonnement humain, bon, les Joab sont là, parce que c'est souvent la logique des humains. Bon, les autres sont là, même si moi je ne suis pas là, la chose va fonctionner. C'est faux, Dieu n'a pas dit ça. Dieu, lui, tu as une relation personnelle avec Dieu. Tu n'as pas une relation de groupe avec Dieu, mais une relation personnelle. Quand Dieu attend un sacrifice, il attend de toi, il n'attend pas du groupe. Et maintenant, chacun faisant son sacrifice, son travail vis-à-vis de Dieu, comme nous sommes nombreux, ça fait un travail de groupe. Mais on ne peut pas dire, mais tiens, comme David s'est dit, bon, Joab est là, il est aussi fort. Je lui laisse la bataille. Moi, je reste chez moi. Et vous connaissez la suite. En restant chez lui, il a observé une femme qui se lavait et il a pris la femme d'autrui. Non seulement il a pris la femme d'autrui, il a tué le mari de la femme. Et conséquence, Dieu lui a dit, le fils de cette femme-là va mourir et dans ta maison, il y aura l'épée qui va entrer. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Un fils de David a violé sa sœur d'une autre mère. Et le frère de la sœur qui a été violée, de la même mère, a tué celui qui avait violé. Et il a fui la colère de David. David, après un jour, lui a pardonné. Il est revenu et ce frère-là, qui s'appelait Absalom, a fait un coup d'état à David. Il a voulu tuer David. David a été obligé de fuir. Donc, tout ça lui avait été prophétisé suite à son acte d'avoir tué le mari d'autrui. Mais tout ça pourquoi? Le début c'est quoi? C'est qu'au lieu d'être à la guerre, au lieu d'être en bagarre, il a préféré se reposer. C'est ça le début. Hein? Un acte qui paraît vraiment simple, normal. Personne ne peut dire, je le dis encore, que c'est un péché. Mais, voilà le poids de l'acte. Voilà les conséquences. Parce que il n'a pas soumis son onction à Dieu. À un certain moment, il a considéré qu'il pouvait décider quand il doit se reposer. Il pouvait décider, mais oui, et cet acte-là de liberté qui paraît très petit et qui paraît même normal, les gens disent, quand les gens me disent il faut me reposer, pour eux, ils sont dans la raison. Mais moi, je dis toujours non. Moi, j'ai été transformé et sanctifié pour faire quelque chose. je ne vis que pour ça. Paul a dit dans Actes 24, il dit, je ne vis que pour la mission que Dieu m'a donnée et pour achever ma course. Maintenant, si Dieu veut me reposer, il peut m'envoyer même à l'hôpital. Il le fera. Il est tout puissant pour faire ce qu'il a à faire. Il connaît mes capacités, il connaît les limites. Il est tout puissant. Je soumets mon appel à Dieu lui-même, puisque c'est lui qui m'a appelé. Bien-aimé, voyez comment des petits actes comme ça peuvent avoir de graves conséquences. Nous lisons aussi 1 Samuel, au verset, chapitre plutôt 2, 27 à 34 d'abord, ensuite on lira le chapitre 3. Le contexte est le suivant. Élie, c'est le grand sacrificateur, donc le grand prêtre, le souverain sacrificateur, donc chargé de gérer le tabernacle. Eh bien, Élie a des fils qui sont aussi des sacrificateurs, parce que la sacrificature, c'était par héritage. Donc, la filiation, c'est que quand tu es fils d'un sacrificateur, tu as droit à être aussi sacrificateur. Et finalement, ses fils, Phinéas et Ophni, ben, ils se comportent comme des vrais bandits. Donc, on ne va même pas lire la partie où on en parle. On en parle donc à partir du verset 12, au chapitre 2, comment ils étaient des vrais bandits, jusqu'à coucher avec les femmes qui venaient adorer Dieu. Vous vous imaginez à quel point ils étaient des bandits. Alors, nous lisons verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte, ils appartenaient à la maison du Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service. » Ça, c'est la maison de son père, dans la maison de Lévi. Hein. « Dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'effort de devant moi, et je donnais à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël. » Assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme. Mais tous ceux qui viendront accroître ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront dans tous les deux le même jour. Ils mourront tous les deux le même jour. Un homme de Dieu vient voir Élie, le souverain sacrificateur, pour lui dire, « Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été bon envers ta famille. J'ai été mis sacrificateur. Et tu avais droit, vous savez bien aimé, à l'époque, l'or pouvait être une richesse, la terre aussi une richesse. Mais il y avait aussi les animaux. La viande, c'était aussi une richesse. Les sacrificateurs avaient, quand on venait sacrifier les animaux, ils prenaient une part de la viande. Dieu lui dit, mais je t'avais donné toute la viande. Mais pourquoi? Pourquoi, verset 29, c'est ce qu'on va retenir. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice? Et puis, la suite, pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Est-ce que Élie s'est prosterné devant ses fils? Non. Est-ce qu'il les a applaudis? Non. Mais Dieu lui dit, pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? Parce que les fils d'Élie se comportent mal. Ils prennent les sacrifices destinés à Dieu, ils en font leur joie. Les humains, les femmes qui viennent adorer Dieu, ils les prennent. Ils s'amusent dans la maison de Dieu comme si c'était leur maison. Mais Dieu, il parle à qui? À leur papa. Pourquoi tu honores tes fils plus que moi? Maintenant, nous allons voir comment Élie honore les fils plus que Dieu. Au chapitre 3, 11 à 13. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici que moi, je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Donc, le problème de Dieu, c'est pourquoi il condamne Élie? Parce que par la suite, si vous lisez, vous allez voir que même Élie est mort. Donc, il n'y a pas que ses fils qui sont morts. Même lui, quand on lui a annoncé que ses fils étaient morts, il est tombé, il est mort. Alors, pourquoi Dieu condamne Élie? Parce qu'il n'a pas réprimé, il n'a pas réprimandé son fils, ses fils. Il ne les a pas blâmés sans qu'il les ait réprimés. Il ne les a pas réprimés. Mais pourtant, quand on lit au verset, au chapitre 2, Élie leur dit quoi? Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Verset 23. Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. Pourtant, on voit bien qu'Élie, quand même, leur parle pour leur dire, mais ce que vous faites n'est pas bon. Mais pour Dieu, c'est de la blague. C'est comme les radars pédagogiques qui vous disent, tu roules à 70, tu roules à 80, et quand tu roules à 50, le monsieur, il sourit. Mais qui s'en occupe? Mais quand il y a le vrai radar qui prend en photo, là, tout le monde devient simple. Hein? Tout le monde se calme. Mais les radars pédagogiques, vous roulez à 60. Vous roulez, et alors? Parfois, il y en a qui ont des GPS. Il arrive à 110, le GPS sonne. Mais le GPS n'a qu'à sonner, lui il monte la vitesse. Hein. Mais quand il y a l'appareil, le radar qui prend en photo, tout le monde se calme. Parce que ce radar-là fait la répression. Alors que le premier n'est que pédagogique. Élie, il a dit, mais ce que vous faites là n'est pas bien, mes enfants. Oh, Dieu dit, mais c'est ça, juste ce que tu fais. C'est toi le souverain sacrificateur. Tu crois que c'est mai 68 ici? Bien-aimé. Bon, c'était pas encore... On était dans les années moins. Mai 68, tout est permis. Il y a des parents qui disent, oh, le pasteur, il est extrémiste. Avec les enfants, il faut être pédagogique. Bien-aimé. Les radars pédagogiques ne calment personne. C'est les radars avec la photo là qui calment les gens. C'est ça la réalité. Dieu dit, tu ne les as pas réprimés. Tu as fait de beaux discours. Ah, mais là, vous touchez Dieu. Mais oui, mais puisqu'il touche Dieu, c'est toi le chef. C'est toi le souverain sacrificateur. Prends des mesures. Sanctionne-les. Suspends-les. Il ne les a pas suspendus. Ils continuent à faire leur travail, mais lui disait, mais ce que vous faites là n'est pas bon, mes fils. Dieu a dit, donc tu respectes tes fils plus que moi. Tu les honores plus que moi. Bien-aimé, toi qui es parent chrétien, tu es là à faire des discours pédagogiques. Dieu te dit, mais tu honores tes enfants plus que moi. Parce que je te les ai confiés pour que tu les instruises selon la parole de Dieu. C'est écrit dans Proverbes 22:6. Instruis l'enfant selon la parole de Dieu. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On est là à dire, bon non, avec les enfants, il faut être stratégique. D'accord, mais stratégie dans la parole de Dieu. Et la répression doit être dedans, bien-aimé. C'est ce que Dieu dit. Mais beaucoup restent dans le discours, comme Élie. Quelqu'un pourrait dire, mais oh, juste parce que Élie, vous savez, je suis le dessin animé de la Bible pour les enfants. À cet endroit-là, bon, c'est eux qui ont monté, ce n'est pas écrit dans la Bible. Samuel, quand il a entendu la voix de Dieu lui dire, va dire à Élie, je vais le juger ainsi que sa famille. Et Samuel vient dire à Élie la chose. Ensuite, il dit à Élie, mais Élie, mais pourquoi tu n'as pas obéi à Dieu? Samuel était un jeune enfant. C'était la première fois qu'il entend la voix de Dieu. Ça l'a tellement impressionné, il a dit, mais Élie, mais toi, cette voix-là t'a parlé déjà. Mais pourquoi tu n'as pas obéi? Pourquoi tu n'as pas réprimé tes fils? Ça, c'est dans le film. Mais c'est ça la réalité. Samuel a dû lui dire, mais Élie, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas que tu avais affaire au Dieu vivant. Bien-aimé, c'est ça. Ne pas peser ses actes. Tu laisses tes fils se comporter comme ça dans la maison de Dieu. Mais tu ne sais pas que tu as affaire au Dieu vivant. Il faut peser les actes, bien-aimé. Pour moi, c'est clair. Je dis à mes enfants, celui qui touche à Dieu a un problème avec moi. Parce que tout ce que vous mangez, c'est Dieu qui m'a donné. Et celui qui touche à mon Dieu a un problème avec moi. Dieu a tout fait pour moi. Alors je ne peux pas accepter que dans ma maison, qui a été produite par Dieu, quelqu'un vienne vouloir faire sa loi. Ça c'est blaguer avec Dieu. Tu honores tes fils plus que moi, dit Dieu. Si tu veux faire le désordre, hors de ma maison. Chez moi, c'est Dieu qui règne. C'est la vérité. Élie a préféré l'amour humain plutôt que l'amour éternel, saint et véritable, qui aurait pu même sauver ses enfants. S'il avait réprimé ses enfants seraient peut-être sauvés. Mais il ne les a pas réprimés. En quelque sorte, il n'avait pas un bon amour, un vrai amour pour ses enfants. C'est Élie qui a contribué à tuer ses enfants. Parce qu'il ne les aimait pas de l'amour véritable, mais il les aimait de l'amour égoïste, de l'amour dont les enfants aiment les poupées et autres choses. C'est de l'amour égoïste, ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour cherche l'intérêt de l'autre, l'intérêt maximum. C'est ainsi que beaucoup n'aiment pas lorsqu'on prêche ce qui les met en position de fautif. Ils veulent qu'on les encourage dans les prédications. Qu'on leur dise, Dieu vous aime, Dieu vous soutiendra, vous serez le premier et non le dernier. Et lorsqu'on commence à toucher à ce qui est essentiel, lorsqu'on leur dit, mais tu es prédicateur, mais tu ne t'occupes pas de tes enfants, tu ne prêches plus, ah là, moi je quitte l'église. Tout ça à cause des petits actes. Les petits actes entraînent de graves conséquences. Beaucoup ont détruit leur famille à cause de positions d'orgueil. Beaucoup ont dit, mais Dieu, il y en a même qui ont vu le couloir des bâtiments de l'église, avant même de venir à l'église. Dieu, quand ils sont venus, Dieu m'avait montré ce couloir en songe. 6 mois plus tard, parce qu'on ne l'a pas visité que parce qu'il était malade, Dieu a changé de couloir. Bien-aimés, et des gens ruinent leur vie comme ça. Parce que là où Dieu t'a planté pour produire du fruit, tu fuis cela, mais tu ruines ta vie. Parce que Dieu n'est pas un clown qui va nous suivre là où on veut. C'est lui qui choisit là où il nous établit. Et toi-même, tu le dis de ta bouche, tu confesses de ta bouche, j'ai vu le couloir en songe. Avant d'arriver dans ce lieu, 6 mois après, le pasteur touche quelque chose concernant ta vie. Déjà, tu accuses ce qu'on lui a dit, alors que c'est faux. Bien aimé, mais quand on parle, il faut bien que ça touche quelqu'un, parce que si ça commence à toucher que les arbres, bon, à quoi ça sert? Donc, dans ce cas, on doit prêcher au jardin des plantes. Hein. Voilà. Donc il faut bien que quand on parle, un humain se sente concerné. Donc cet humain-là va croire qu'on nous a dit. On nous a dit, donc ça ne sert à rien si on ne doit plus toucher les humains. Mensonge, on a dit au pasteur, et deuxièmement, la personne quitte l'église. Pourquoi? Parce que il a été blessé pour quelque chose. Ce n'est même pas, la personne ne vous dira pas, c'est parce qu'on prêche le diable ou on prêche le faux. Non. C'est parce qu'on ne m'a pas fait ceci. C'est parce qu'on m'a mis de côté à cause de ceci. Voilà. C'est pour des raisons humaines personnelles. La personne quitte le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas parce qu'il a trouvé que les choses n'étaient pas conformes à la Bible. Mais c'est parce que lui n'a pas été arrangé dans sa conception humaine. Et des gens comme ça ruinent leur vie. Parce qu'ils ont quitté le jardin où Dieu les avait plantés. C'est ça la réalité, bien-aimés. Rien que de l'orgueil. Non. Dont on n'a pas été délivré. Des petites choses comme ça, des fiertés comme ça. Voilà. Il y en a qui pensent que, bon, ils sont intellectuels, donc quand ils arrivent, oh, il faut forcément qu'on leur donne un boulot qui construise le site de l'église, qui fasse ceci, qui fasse cela. Et quand on ne leur donne pas ça, ben, c'est pas mon église et la personne entre dans l'errance. Parce que quand on quitte l'endroit où Dieu t'a planté, véritablement, à moins que ça soit toi-même tu avais menti, mais si c'est véritablement Dieu, ben, on entre dans l'errance. On entre dans l'errance. Et on va tourner en rond 10 ans, 15 ans, parce qu'on est sorti du plan de Dieu. C'est ça la réalité, bien-aimée. Tout ça à cause des petites fiertés. Des petites fiertés. C'est ça. Et la parole nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées, mais exhortez-vous. Donc s'il y a un problème, discutons, exhortons-nous. Mais les gens, ils sont égoïstes, ils regardent à eux-mêmes. Dès qu'ils sont gênés, eh bien, ils prennent des décisions. Parce qu'ils sont gênés. Et non pas parce que la Bible n'est pas pratiquée, mais c'est parce qu'eux, ils sont gênés. Et ils loupent leur vie comme ça à cause des fiertés qui n'ont pas été purifiées. Parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à eux-mêmes. Attention, bien-aimés, les petites portes peuvent avoir des graves, graves conséquences. On voit ce qui s'est passé avec Saül. Il n'a pas voulu tuer les animaux. On connaît les conséquences. Il a été perdu jusqu'à aller consulter une voyante. Sa maison a été perdue, ses enfants ont été tués. Lui-même a été tué dans la guerre. Ne négligeons pas le poids de nos actes. Je disais à quelqu'un, j'ai dit, mais tu sais, moi, je suis pasteur, certains de mes actes, parfois, des actes que je dois commettre, parfois ne sont pas des péchés, mais je ne le fais pas. Parce que dès que je vais faire ça, beaucoup vont m'imiter, mais dans le mauvais sens. On dit, mais non. Tu n'es plus libre, la personne m'a dit, mais tu n'es plus libre, pasteur. J'ai dit, c'est vrai, je ne suis plus libre. Et étant devenu pasteur, je ne suis plus libre. Parce que beaucoup de gens me regardent. Et donc chacun de mes actes est pesé en fonction des conséquences que ça peut produire. J'ai dit à un autre, tu vois par exemple, quand il fait chaud, il y a le soleil, je pourrais me mettre aussi, je ne dis pas que des lunettes de soleil, ce n'est pas un péché. Mais je sais que dès que je vais mettre ça, dès que je vais être au parking là, deux semaines après, on va voir de toutes sortes de lunettes de soleil au milieu de nous, mais pas pour les mêmes raisons. Les gens vont dire, aïe, la porte nous est ouverte, on y va. Donc voilà, donc je préfère souffrir, je ne mets pas. Je ne veux parce que chacun de tes actes, vu le poste que tu occupes, devient important. Attention, on n'a pas tous les mêmes rôles, on n'a pas tous les mêmes postes. Chacun de nos actes a un poids en fonction des rôles que nous jouons. Nous devons nous rappeler de tout ça. Quand nous chantons, quelqu'un qui est dans le public nous considère comme quelqu'un de saint, qui aime beaucoup Dieu. Et dès qu'il va voir un jour que tu prends la priorité à quelque chose plutôt que Dieu, il va dire, oh, mais je croyais que quelqu'un dit, Dieu prend tout, Seigneur. Oh. Mais la sœur, elle a pleuré, elle pleure devant. Mais oui, les gens, ils sont déstabilisés. Mais je croyais qu'il était attaché à Dieu ou bien qu'il était attaché à Dieu. Bon, si lui fait déjà ça, mais nous tous, donc on peut de temps en temps faire des petits écarts. Hein? Pourquoi pas? Voilà, bien aimé. Là où nous sommes, nous avons, nos actes ont un poids déterminé. Les gens m'ont diront, tu n'es plus libre. C'est vrai, je ne suis plus libre. Parce que j'ai donné ma vie afin que les autres soient sauvés. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Donc, on n'est plus libre. Il dit, on est comme des rébus, des déchets de la société. Il le dit. C'est une réalité. Tu es devenu pasteur, tu es comme un déchet. Tout le monde va vouloir te marcher sur les pieds parce qu'on dit, mais lui, il est pasteur, il n'a qu'à répondre par l'amour. Voilà. Et tu dois accepter ça parce que tu as un rôle qui doit être un rôle exemplaire. Et donc, chacun de nous, à sa place, a un rôle qui a un poids et ses actes ont un poids aussi. Il y a des gens qui observent pour se saisir de ces exemples-là et marcher dans leur vie chrétienne. Regardez Paul, il ressemble à Jésus parce qu'il a pris des places comme celle de Jésus. Place de berger, place d'apôtre. Les pierres, les gens, ils ressemblaient vraiment à Jésus dans beaucoup de choses. Parce qu'ils ont pris sa place à peu près. Donc en fonction du rôle que nous avons, en fonction de... Si tu es chrétien, tu te retrouves au milieu des païens. Tu as un rôle. Et les gens observent. Et si toi tu es le chrétien, tu te comportes de telle manière, si lui qui est chrétien le fait, pourquoi pas nous? C'est ça, bien-aimé. Nos actes ont un poids. Et bien souvent, nous avons ouvert des grandes portes, nous avons plutôt ouvert des grandes destructions, permis des grandes destructions, juste en ouvrant des petites portes, parce qu'on a oublié le poids de nos actes. Bien-aimé, on a oublié le poids de nos actes. Souvenons-nous de la scène de Jésus et Pierre, arrière de moi, Satan. Beaucoup dans leur négligence, beaucoup dans leur légèreté, beaucoup dans leur caractère non purifié se laissent parfois utiliser par le diable et bloquent le salut des autres. Parfois des petites colères. Juste parce qu'on estime, mais après tout, même si on est chrétien, on est quand même mari et femme, hein? Donc il doit faire ceci, hein? Il doit faire cela, hein? Bien-aimé. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces au milieu des chrétiens. Parce que le caractère n'est pas purifié. On veut mélanger la chair et l'esprit. Oui, il y a des devoirs de l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il y a aussi l'amour biblique, l'amour agapé, l'amour total. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on doit éliminer l'amour agapé en fonction de l'amour éros. Non. L'amour agapé doit être toujours au-dessus. Même si l'un a des devoirs vis-à-vis de l'autre, nous devons considérer l'autre comme nous-mêmes. C'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous devons être capables de pardonner, de donner du temps, d'aider l'autre à s'en sortir de ses faiblesses par la prière, par le sacrifice et par bien d'autres actes d'amour. Mais si on met en avant charnellement, le côté, on est marié, donc il faut. On va dans des cassures et dans des divorces, bien-aimés. Attention à des petits actes, selon nous, parfois à des petites phrases, parfois à des petites réflexions. Tu attends un enfant, tu te fais toi-même tes conclusions, tes petites réflexions comme ça ne vient pas. Bon, moi je suis une délaissée. Moi, Dieu ne me connaît pas. Des petites phrases comme ça ont des graves conséquences parfois. Tu attends le mariage, tu commences à te faire des réflexions. Bon, moi, je suis fait peut-être pour être comme ça, parce que le temps, ça ne se fait pas au moment où tu veux. Bien-aimé, c'est des petites choses comme ça qui ont des graves conséquences. Nos actes ont un poids, bien-aimé. Souvenons-nous de cela. Il y a même des actes qui ne sont pas des péchés, mais qui sont une sorte de désaveu de ce que nous sommes en Christ. Aujourd'hui, en tant qu'humain, je ne sais pas si je dois les appeler péchés. Dieu seul sait. Mais ce qui est sûr, ce sont des actes qui sont contraires à la nature outre-neuve. Quand Dieu nous appelle des outre-neuves, donc notre intelligence transformée, c'est des actes contraires à cette nature-là. Nous devrions regarder à ce qui est Dieu réellement et qui nous sommes étant devenus chrétiens. Tu arrives quelque part juste parce qu'on ne t'a pas servi en premier, on t'a servi en dixième. Comme tu es pasteur, ça devient un problème. Pourquoi ça va devenir un problème? Puisque tu es pasteur, on doit te servir le premier. Pourquoi? Il y en a qui en font un problème. Moi, je connais un pasteur qui il voulait un contact avec moi. J'ai dit, mais bon, le contact doit se faire d'abord par des visites réciproques. Et puis, bon, si on se connaît, là, on pourra travailler. Mais déjà, il me dit qu'il n'a pas besoin qu'on mange ensemble parce qu'il n'a pas le temps. Moi, j'ai dit, mais je n'ai pas demandé à ce qu'on mange ensemble. Au moins que on se visite quand même. Tu viens dans l'église où moi je suis, tu vois comment ça se passe, moi aussi je viens, et puis on sait à peu près ce que fait l'autre, et puis le jour où on devra travailler, on se connaît un peu. Dis, bon, d'accord, mais quand je viendrai dans l'église où tu es, on me mettra quand même devant. Hein? Moi j'ai dit, mais voilà. Il a tout cassé. Donc il y a des gens comme ça. Puisqu'il est pasteur, il faut qu'on le mette devant. Bien-aimé, non. Pourquoi pour des petits trucs comme ça faire des problèmes? Il y a des gens, parce qu'on ne lui a pas dit bonjour, ça devient grave. Pourquoi des petites choses créer des grands problèmes et parfois ça peut entraîner qu'il va parler à des gens et tout ce qui concernera la personne qui ne lui avait pas dit bonjour sera considéré comme négatif. Donc il va haïr quelqu'un parce que ça fait deux fois que la personne ne lui a pas dit bonjour. Rien que ça. Des petites choses qui entraînent de graves conséquences. Bien-aimés, il ne faut pas que la grâce nous fasse oublier cela. La grâce fait que nous sommes pardonnés de nos péchés, quels qu'ils soient, lorsque nous demandons pardon. Mais il y a des conséquences, il y a un poids dans les actes que nous commettons. Parfois qui ne sont pas des péchés, mais juste qui dénature ce que nous sommes en Christ, sans qu'on puisse dire clairement que c'est des péchés. Pensons à tout cela, bien-aimés. Que chacun prie le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux renoncer à moi-même. Je veux que mon intelligence soit renouvelée. Que je comprenne ce qui est important. Que je comprenne ce qui vaut la peine d'être vécu ou d'être fait. Que je comprenne ces choses. Je veux que tu m'évites de me laisser utiliser par Satan. Ne faisons pas comme Judas. C'est écrit dans Luc 22. Satan est entré en Judas. C'est là qu'il est parti faire des bêtises, trahir Jésus pour 30 pièces. Mais quand Jésus a été arrêté, crucifié, qu'est-ce que Judas a fait? Il s'est suicidé. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une grave erreur. Une grave erreur. Il n'a pas pesé les conséquences de son acte d'une manière personnelle. Mais nous, ça nous a profité, nous avons été sauvés. Mais lui, il a perdu. Parce qu'il n'a pas pesé l'acte qu'il commettait. Croyant profiter des 30 pièces, et puis l'affaire va s'embrouiller. Parce que dans sa tête, il croyait que bon, après Jésus, l'affaire allait s'embrouiller, Jésus allait s'en sortir, et puis voilà, lui, il a déjà pris les 30 pièces. Voilà, la cupidité l'a perdu. Pour 30 pièces, il a vendu son âme. Mais lui, croyant faire un acte d'escroquerie léger, comme ça. Non, bien-aimé. Attention, bien-aimé, quand on dit aux gens, attention à l'argent, attention à la convoitise, soyons simples. Il y en a qui pensent que, voilà, moi j'ai signé un contrat de pauvreté. Non, on n'a pas signé de contrat de pauvreté. Nous connaissons la puissance des choses et nous connaissons aussi que Dieu est tout puissant pour nous enrichir. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous précipiter par rapport à ces choses-là. Nous voulons rester simples et que Dieu pourvoie nos besoins chaque jour, bien-aimés. Et certains pensent que nous sommes nés comme ça. Non, on n'est pas nés comme ça. On a compris la dangerosité de certaines choses. On a vu des ministères tomber, on a vu des pasteurs tomber, on a vu des servantes de Dieu tomber. Alors, quand on prévient, c'est parce qu'on connaît la dangerosité. Ça peut commencer par des petites choses et ouvrir des grandes portes. Notre exhortation, c'est laissons-nous transformer pour devenir des outres neuves qui allons vivre selon la logique du Seigneur. Pas forcément selon la logique, j'ai péché ou je n'ai pas péché. Beaucoup font des petits actes qui ne sont pas apparemment des péchés, mais qui dénaturent leur côté serviteur de Dieu. Mais comme ce ne sont pas des péchés écrits, ils le font et ils n'arrivent pas à entrer dans leur appel réellement parce qu'ils sont freinés, ils sont bloqués, parce qu'ils ne sont pas des outres neuves, ils ne sont pas dans la nature du Seigneur. Prions que le Seigneur nous transforme et disons-lui, Seigneur, je renonce à moi-même, je veux vivre pour toi. Parce que c'est ce qui s'est passé à la croix. J'ai été crucifié avec toi et je suis mort avec toi afin de ressusciter avec toi. Je n'existe plus. Si j'existe, c'est pour vivre Christ en moi. Amen. Attention, bien-aimés, à nos petits actes. Pesons nos actes. Aujourd'hui, nous avons parlé du négatif. Plus tard, nous parlerons des actes positifs. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous venons prier que tu nous aides à peser nos actes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que nos caractères soient purifiés. Car lorsqu'ils ne sont pas purifiés, ils donnent accès à des grosses manœuvres fortement destructrices pour le plan de Dieu et pour nous-mêmes. Alors qu'en apparence, les portes ouvertes sont petites. Et lorsque nous nous laissons utiliser par le diable, par distraction, nous attaquons Dieu lui-même. Pardonne-nous, Seigneur, on s'est laissé distraire parfois dans certaines choses à cause des petites colères ou jalousies pour te combattre en combattant les autres. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être égocentriques, à ne pas penser à nos intérêts seuls. Aide-nous à réaliser que les conséquences de nos actes ne se limitent pas qu'à nous-mêmes et que par amour pour les autres, nous devons tenir compte de ce que ça peut leur faire, nos comportements, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que nous oublions souvent. Au nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Nous nous attendons à toi, purifie nos cœurs, afin que nous soyons vraiment à ton image, que nous puissions vivre réellement pour toi, dans le nom de Jésus-Christ.